Alors, nous allons lire la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 17 à 25. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas dans la sagesse du langage, mais afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. Et vous le voyez, nous allons réfléchir sur la croix du Christ. Paul continue. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents », qui est une citation de Ésaïe 29, verset 14. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, un Christ qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les humains, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Alors, avec ce texte, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à une question simple. Question simple, pourquoi mettons-nous des croix dans nos édifices, chrétiens? Bon, on y est habitué, on n'y fait pas toujours attention, mais enfin, vous avez une très belle croix ici. Alors, pourquoi? A priori, c'est quand même un peu surprenant, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié, mais enfin, une croix, c'est une façon d'exécuter un condamné à mort. A priori, c'est quand même surprenant de s'en réclamer. Alors, pour tenter de résoudre cette question simple, j'ai choisi un texte difficile. Je ne le cache pas, j'ai eu du mal, j'ai même hésité à le prendre parce que ce n'est pas simple. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai lu un livre d'Élian Cuvillier, disant c'est sans doute le verset le plus commenté de toutes les épîtres de Paul. Alors donc, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Donc, pour essayer en tout cas, il faut se souvenir que c'est au début de l'épître aux Corinthiens. Et cette épître aux Corinthiens, c'est avec l'épître aux Thessaloniciens, les deux premiers écrits chrétiens qui nous soient parvenus. C'est donc un texte qui traite des tout débuts de l'Église chrétienne, une vingtaine d'années après la mort du Christ, au moment où ceux qui se réclament de lui commencent à se séparer des synagogues du judaïsme officiel. Et c'est-à-dire au moment où il faut inventer quelque chose de tout à fait nouveau. En particulier, essayer de donner un sens à la mort du Christ, mais pas n'importe quelle mort, la mort du Christ sur une croix. Au fond, pour l'apôtre Paul, il s'agit de définir ce qui est à ses yeux la principale originalité doctrinale du christianisme par rapport aux religions de son temps, et essentiellement, dans le cas des Corinthiens, par rapport aux Juifs, il y a une communauté juive à Corinthe, et par rapport aux Grecs, c'est-à-dire globalement aux païens. Je vais donc essayer de vous dire, d'expliquer comment je comprends ce que nous écrit l'apôtre Paul, quel sens il faut donner à la croix du Christ. Bien sûr, ce n'est qu'une des très nombreuses interprétations possibles. Toutefois, dans un premier temps, je commencerai par évoquer rapidement le cadre historique à Corinthe, puisqu'il s'agit d'une lettre adressée par Paul aux Corinthiens et que ça influence évidemment la façon dont Paul s'exprime. Et dans une seconde partie, je m'intéresserai à ce que Paul appelle la parole de la croix, qui est une folie pour les Grecs de son temps. Vous l'avez vu, le texte y insiste fortement. Donc, commençons par le contexte général à Corinthe en 50, enfin vers 50. La lettre de Paul aux Corinthiens, il l'écrit en 54. Paul est arrivé à Corinthe à la fin de l'année 49 ou au début de l'année 50, après avoir tenté, sans grand succès d'ailleurs, de convertir les Athéniens. Il reste à Corinthe 18 mois et repart dans le courant de l'année 52, après avoir posé les bases de la première église de Corinthe. Alors, en 54, quand il écrit sa lettre aux Corinthiens, il est à Éphèse, donc en Asie, mais il sait que l'église de Corinthe est très divisée. Et il lui écrit pour tenter d'apaiser les choses. D'où, dans toute cette première épître aux Corinthiens, les très nombreux conseils qu'il donne. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Au point de vue social, on peut caractériser Corinthe comme une grande ville, très active, il y a deux ports, nombreux bateaux, échoppes, etc. Et des gens qui viennent de tout le bassin de la Méditerranée, comme en général dans les grands ports. C'est donc une ville cosmopolite. C'est une ville qui compte environ 80 000 habitants, dont un tiers d'esclaves, ce qui ne sera pas indifférent. C'est une ville riche, de son commerce, de son artisanat. Tous les deux ans, il y a des jeux ismiques. Vous voyez, il n'y a pas que les Jeux olympiques tous les quatre ans à l'Olympie. Il y a des Jeux ismiques de l'isthme de Corinthe, bien sûr, qui attirent de nombreux touristes. Vous voyez, c'est d'actualité, si je puis dire. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est riche. La ville est riche, sans doute, mais ça veut dire que c'est une ville avec une grande variété de catégories sociales. Et ça aussi, ce n'est pas indifférent pour notre texte. Donc, une ville variée, cosmopolite, mais cosmopolite aussi bien pour le commerce, pour les habitants, que pour, pourrait-on dire, le marché religieux. C'est-à-dire que les archéologues ont trouvé 30 lieux de culte différents à Corinthe. Évidemment, les dieux grecs, Zeus, Athéna, etc. Des dieux égyptiens, Osiris. Des dieux asiatiques, Mithra, etc. Donc, vous le savez, les religions de l'Antiquité sont accueillies. De ce fait, Paul peut prêcher librement. Il prêche librement, mais ça ne veut pas dire que pour un Corinthien, il est facile de se convertir au christianisme. En effet, dans l'Antiquité, la religion englobe tous les aspects de la vie. Par exemple, quand on signe un contrat, on prête serment sur les dieux gréco-romains. Mais les chrétiens, bien sûr, ne le font pas. Et donc, est-ce qu'on peut avoir des partenaires fiables, puisqu'ils n'ont pas prêté serment sur les dieux ? De même, les chrétiens ne fréquentent évidemment pas les temples païens. Mais alors, peut-on entretenir des relations sociales avec eux, etc. Donc, devenir chrétien, c'est très difficile, parce que ça affecte en profondeur tous les aspects de la vie. C'est aussi difficile pour une deuxième raison. C'est que pour demander aux Corinthiens de se convertir, eh bien, il faut savoir ce que ça veut dire que d'être chrétien. Et en 50, ce n'est pas simple. Nous, on peut dire aujourd'hui, vous voulez savoir ce qu'est chrétien ? Lisez le Nouveau Testament. Mais oui, seulement en 50, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'y a pas d'évangile. Premier évangile de Marc est de vers 70. Il n'y a pas d'épître. Bon, si, certes, il y a l'épître aux Thessaloniciens qui date de 51. Mais à l'époque, l'épître aux Thessaloniciens, elle est réservée aux gens de Thessalonique. Donc il n'y a pas de texte canonique en quelque sorte. De plus, Jésus a parlé, mais il n'a laissé aucun écrit. Alors bien sûr, on a commencé à réunir ces paroles, les logia, comme on dit, hein, de logion, parole en grec, logia au pluriel. Mais il n'y a rien de fixé. Il y a sans doute une bibliothèque, pourrait-on dire, de logia à Antioche, et on pense que Paul a été formé au christianisme à Antioche, sans en être sûr, mais enfin, il n'y a rien de fixé. De plus, Jésus n'a proposé aucune synthèse doctrinale. Et sans vanter notre Église, si je puis dire, la première synthèse doctrinale de ce qu'est le christianisme, ça date de 1536. C'est Calvin. Première vraie synthèse doctrinale, l'institution, c'est-à-dire l'explication de la religion chrétienne, ça date de 1536. Jésus, donc, n'a pas fait de synthèse doctrinale, n'a donné aucun conseil sur la façon d'organiser une église. J'ai parfois surpris mes étudiants quand je leur ai dit qu'il n'y a pas une ligne du Nouveau Testament qui dit qu'il faut aller dans un temple le dimanche matin, enfin dans un édifice religieux le dimanche matin. Je vous conseille d'y aller, mais il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas une ligne du Nouveau Testament qui le dit. Au total, il faut tout inventer. Il n'y a pas un corps stable de rites, il n'y a pas de règles, pas de pratiques, et surtout, on n'a aucun modèle. Parce que le christianisme est justement totalement différent des autres religions du premier siècle. Enfin, troisième difficulté, si je puis dire, Paul doit présenter le christianisme à des juifs, notamment la communauté de Corinthe, et à des païens, qui sont très différents les uns des autres. La religion gréco-romaine ne ressemble absolument pas au judaïsme. Donc, vous voyez la complexité de l'entreprise. On pourrait dire, quand on lit une épître de Paul, je trouve le génie, en quelque sorte, de Paul, qui invente, voyez-vous, quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'il met? Vous voyez, on est au début de l'épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il met au début? Eh bien, la parole de la croix. Verset 18, la parole de la croix nous parle. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la croix nous dit? Qu'est-ce que cette croix nous dit? Eh bien, Paul nous explique la principale différence entre le christianisme et les autres religions, c'est le rapport que les hommes entretiennent avec Dieu. Et pour m'expliquer, parce que dit comme ça, c'est pas simple, je vais insister sur trois points. Premièrement, Paul nous dit « La croix s'oppose à la façon païenne et à la façon juive de comprendre qui est Dieu et donc quelle relation les hommes peuvent entretenir avec lui. » Deuxièmement, la croix propose sa vision de Dieu. Et troisièmement, eh bien, en quoi ce que nous dit la croix peut nous aider, nous, aujourd'hui, ici, à Palaiseau, dans la vie de tous les jours. Donc, reprenons ces trois points. Premièrement, la croix s'oppose à la façon grecque et juive de comprendre qui est Dieu. Donc, Paul estime nécessaire de le faire, parce qu'il a donc des gens d'origine juive et d'origine païenne, et qu'ils sont très divisés. Dans le passage précédent, que je n'ai pas lu, il écrit qu'il y a des partis religieux et qu'on se dispute et qu'on se réclame d'un prédicateur. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ », c'est le verset 12. D'où un risque de scission. Donc Paul doit réagir et insister sur ce qui réunit tous les chrétiens. Et donc, voilà, le point central de la doctrine chrétienne qui réunit tous les chrétiens, c'est la parole de la croix, verset 18 ou verset 23, nous proclamons un Christ crucifié. Et je dois dire, il en rajoute encore un peu après, au deuxième chapitre, verset 2, j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Alors, affirmer ça fortement, hein, vous l'avez vu comme il le dit, affirmer ça fortement, eh bien, c'est s'opposer frontalement avec la façon de penser qui est Dieu chez les Juifs et chez les païens, chez les Grecs, deux groupes donc de l'Église de Corinthe. Alors, essayons de clarifier en prenant l'affirmation centrale, versets 22-23. Les Juifs, en effet, demandent des signes et les Grecs cherchent la sagesse. Or nous, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Commençons dans l'ordre de Paul par les Juifs. Paul nous dit, les Juifs demandent des signes. Verset 22. Ça, c'est assez simple à comprendre. Il suffit d'ouvrir l'Ancien Testament. Pour les Juifs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se révèle dans l'histoire du peuple d'Israël, qui montre que le peuple d'Israël a survécu grâce à Yahvé, mais surtout grâce à la force de Yahvé. Yahvé se manifeste, certes, de diverses façons, mais en général, les signes qu'il donne sont des signes de force, des signes de puissance, et c'est ça qu'on est habitué à voir dans le judaïsme, un Dieu tout-puissant. Les Grecs, c'est-à-dire les païens, eux, nous dit Paul, ils cherchent la sagesse. En effet, les Grecs, et Paul est un lettré grec, hein, cherchent à atteindre la sagesse en usant de leur raison. On a l'exemple des dialogues de Platon, le banquet par exemple. Les hommes, en raisonnant les uns contre les autres, pensent qu'ils peuvent atteindre la vérité en comptant seulement sur leur propre force. Pour les Grecs, la vérité, c'est donc un objet qui est extérieur à l'homme et qu'on peut atteindre en utilisant sa raison. Mais, leur dit Paul, la conséquence de cela, c'est que tout ce que font ou tout ce que disent les Grecs, c'est de la sagesse humaine. Ce qui est sage aux yeux des hommes, c'est une construction intellectuelle brillante, mais marquée par toutes les imperfections de la nature humaine, puisque les hommes ne sont pas parfaits. Tout cela explique que pour un juif, comme pour un grec de Corinthe au 1er siècle, affirmer que Dieu se révèle dans le corps d'un crucifié, eh bien, tout simplement, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable parce que, pour les Juifs, le moins qu'on puisse dire, c'est que la mort de Jésus sur une croix, ce n'est pas un signe de puissance. Au contraire, ça va à l'encontre de tout ce que les Juifs sont habitués à considérer comme une manifestation de Dieu. Pour les païens, pourquoi est-ce que c'est une folie? On pourrait même traduire aussi une absurdité. Vous voyez, ils sont fous ces chrétiens, comme dit Obélix, si je puis dire. Donc, pourquoi est-ce que c'est une folie? Eh bien, pour nous, c'est un peu compliqué à comprendre, parce que notre longue fréquentation de la croix, on en a toujours vu une croix. Notre longue fréquentation, ça fait 2000 ans, nous fait oublier que mourir sur une croix, ce n'est pas une mort héroïque, comme ça l'est pour nous. Au contraire, c'est une mort qui insiste sur son côté le plus détestable. L'antagonie attachée sur une croix, c'est alors la pire forme d'exécution d'un condamné. Et Cicéron, dans les Vérines, écrit « C'est le plus cruel et le plus horrible des supplices ». D'ailleurs, les citoyens romains en sont exemptés. En général, c'est réservé aux grands criminels, aux esclaves, aux ennemis de l'État. C'est un instrument de terreur pour réprimer les soulèvements. C'est comme ça qu'on a réprimé le soulèvement de Spartacus, par exemple, le soulèvement des esclaves. Donc, pour un Grec, mourir sur une croix, ce n'est pas mourir en héros, c'est mourir en paria. Donc, proclamer un crucifié, c'est-à-dire se réclamer de ce qu'a annoncé quelqu'un qui a été crucifié en raison de ce qu'il avait dit, c'est aller à l'encontre de toutes les valeurs culturelles grecques. Et donc, il est assez logique que les Grecs aient traité les chrétiens de fous. Bon, donc, si la croix nous dit que Dieu n'est ni dans les grands événements, comme croient les Juifs, ni dans la sagesse humaine des Grecs, où est-il ? Donc, c'est mon deuxième point. La croix propose sa propre vision de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la croix, puisque la croix parle ? Elle nous dit « Écoutez l'appel de Dieu, parce que Dieu n'est pas là où vous l'attendez. » Écoutez l'appel de Dieu. Ce n'est pas chercher quelque chose d'extérieur à nous, comme font les Grecs ou les Juifs, c'est un état intérieur qui nous permet de savoir ce qui est bon, et ce qui est bon, c'est évidemment ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Pour comprendre ce que Paul veut dire, il faut se souvenir de son expérience personnelle. Paul a trouvé Dieu sur le chemin de Damas, justement là où il ne l'attendait absolument pas. Et il l'a trouvé. Pourquoi ? Parce qu'il a écouté son appel. Vous vous souvenez, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est acte 9, verset 4. Paul a été un pharisien qui a observé fidèlement tous les commandements. Et il sait que les Juifs cherchent la bénédiction de Dieu dans une observation stricte des commandements. Et puis un jour, sur le chemin de Damas, il a compris qu'il faisait fausse route. Vous savez, les écailles qui lui tombent des yeux, métaphoriques, bien sûr. Mais Paul, comme les premiers disciples du Christ, s'est trouvé confronté à un défi, interpréter la crucifixion, interpréter la mort de Jésus sur une croix. Alors, aux Juifs, Paul leur dit, vous savez ça, ça montre l'échec des pharisiens. Les pharisiens cherchent le salut dans la stricte observation de la loi. Mais c'est justement cette stricte observation de la loi qui a provoqué le rejet du Messie que Dieu avait envoyé, qui était pourtant le Fils bien-aimé de Dieu, comme Jésus entend cette voix qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé » au moment de son baptême. Et ce Messie qui était venu pour les libérer. Donc, on peut donc en conclure que la stricte application de la loi, ce n'est qu'une sagesse humaine et non pas la volonté de Dieu. C'est au maximum un contrôle social. Contrôle social qui consiste, le contrôle social, ça consiste à défendre un ordre social inventé par les hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. De même, aux Grecs, Paul dit « En refusant le message de Jésus parce qu'il a été crucifié, vous montrez que les valeurs dont vous vous réclamez, que vous cherchez à atteindre par vos propres forces, la raison, la confrontation des idées, ce ne sont que des inventions humaines qui n'ont rien à voir avec ce que réclame Dieu. » Mais alors donc, quelle vision de Dieu nous propose-t-elle ? La croix, dit Paul, nous dit que pour être chrétien, il faut se laisser surprendre par Dieu, qui fait basculer nos certitudes, comme ces inventions humaines qui conduisaient Paul à persécuter les chrétiens. C'est accepter de se convertir, et vous le savez, se convertir, c'est se retourner. C'est ne pas suivre sans réfléchir les conventions sociales banales, ne pas mettre sa confiance dans la sagesse humaine comme les Grecs, dans l'idée que les hommes se font de Dieu comme les Juifs. C'est suivre l'exemple de Paul sur le chemin de Damas. Être chrétien, c'est refuser l'idée courante de Dieu, telle qu'on trouve dans l'imaginaire de ces deux groupes. C'est admettre, au contraire, que Dieu est présent lors de la crucifixion, lorsqu'il semble faible pourtant. Vous voyez, il faut bien mesurer la radicale nouveauté du christianisme. Dieu ne se révèle pas dans la force, mais dans la faiblesse, ou du moins dans ce qui apparaît comme de la faiblesse aux yeux des hommes. Vous savez, à ma connaissance, tout au moins, c'est bien la première fois que dans une religion, on se réclame d'un Dieu, pas d'un Dieu fort, mais d'un Dieu qui se révèle dans la faiblesse. Et il me semble d'ailleurs que c'était la première fois, mais que je n'ai pas trouvé d'autre aujourd'hui non plus. Au fond, c'est une façon d'affirmer que ceux qui sont forts aux yeux de la sagesse des hommes ne le sont pas aux yeux de Dieu, et c'est bien ce que nous dit très souvent Jésus dans l'Évangile. Mais alors donc, qu'est-ce que cette vision de Dieu, comment cette vision de Dieu, c'est mon troisième point, peut nous aider dans la vie de tous les jours et en particulier dans la vie dans notre Église. Alors, qu'est-ce que nous dit la croix ? La croix nous dit, pour se reconnaître accepté par Dieu, il n'est pas nécessaire d'avoir telle ou telle qualité. Il n'est pas nécessaire d'être un philosophe, comme les Grecs, qui fait de très beaux raisonnements. Il n'est pas nécessaire d'être un descendant d'Abraham. Non. Il suffit d'accepter l'appel de Dieu, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, car Dieu nous accueille tel que nous sommes. Comme le disait tout à l'heure Kierkegaard, il nous aime, le phobie. Cette acceptation de l'appel de Dieu, cela s'appelle la foi, c'est-à-dire justement la confiance dans l'efficacité du message évangélique pour m'aider dans la vie de chaque jour. Et vous savez qu'on trouve là l'origine de la doctrine du salut par la foi, très souvent affirmée dans le Nouveau Testament, en particulier par Paul, au verset 22 dans notre texte, et dont les réformateurs du XVIe siècle ont fait l'un des points centraux du protestantisme. Au fond, ce que la croix proclame, c'est l'accueil inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, comme le fait le père de la parabole du fils prodigue que nous connaissons tous. Et cette façon de comprendre la parole de la croix, on en voit rapidement les conséquences dans l'église de Corinthe. Paul en parle juste après le passage auquel nous venons de nous intéresser, et il dit aux Corinthiens, « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. » En effet, tout ce qu'on sait de l'Église primitive montre qu'il y a peu de gens aisés, mais beaucoup d'esclaves et beaucoup d'affranchis. Ce qui confirme la parole de la croix, qui proclame ce qui est faible dans le monde, Dieu le choisit pour confondre ce qui est fort. Voilà le principe de constitution de la communauté chrétienne. Dieu choisit de se manifester dans la faiblesse, ce qui détruit les valeurs d'excellence de la société gréco-romaine, qui ne sont que des inventions humaines. Dans l'Église, pouvoir, richesse, culture intellectuelle, etc., tout cela ne compte pas. Le statut social, il est grec, l'origine ethnique, il est juive, n'est pour rien dans l'appel de Dieu qui s'adresse à tous les êtres humains, ce qui est une façon, vous le voyez, d'affirmer l'universalité du christianisme. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le christianisme en tant que tel supprime les différences sociales. Le pauvre ne deviendra pas riche parce qu'il se convertit au christianisme. Je ne veux pas vous décevoir, mais Dieu ne lui donnera pas d'argent pour le remercier de sa conversion. Non, ça, il ne faut pas y compter. Mais Dieu lui donne autre chose, et autre chose de plus précieux. Il lui rend sa dignité, parce que l'appel de Dieu s'adresse à tout le monde, riche ou pauvre, qui ont une égale valeur aux yeux de Dieu. Et cette idée générale, Paul la met en application dans la composition des églises qu'il fonde. Une église chrétienne fondée par Paul, c'est une communauté qu'on dirait aujourd'hui inclusive, où chacun, juif ou non-juif, esclave ou homme libre, homme ou femme, souvenez-vous que les femmes prêchent dans les églises fondées par Paul. Tout le chapitre 11 de cet épître aux Corinthiens et 12, c'est, Paul se demande si les femmes doivent avoir ou non la tête couverte quand elles prêchent. Si elles se demandent ça, c'est bien qu'elles prêchent. Et vous voyez, pour un grec ou un juif de ce temps, c'est le monde à l'envers. Imaginez des femmes qui font la leçon à des hommes, et en plus, des femmes qui font la leçon à des hommes dans le domaine religieux. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est bien le monde à l'envers, mais effectivement, dans les églises de Paul, chacun, tout le monde est accepté à égalité de valeur ou de dignité. Dans les églises chrétiennes, les clivages sociaux et religieux qui structurent la société perdent toute valeur. C'était vrai au 1er siècle. Il me semble que c'est encore vrai au 21e siècle. Au total, et pour me résumer, proclamer un Christ crucifié est affirmer le salut par la foi, c'est affirmer l'amour inconditionnel de Dieu qui nous aime le premier. C'est affirmer l'universalité du christianisme, universalité géographique, universalité sociale, égale dignité de tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Voilà au moins une partie de ce que nous rappellent les croix que nous plaçons dans nos temples, qui, comme vous le voyez, ont beaucoup de choses à nous dire. Amen.